Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast. Que vous soyez du milieu médical ou non, je vous invite à rester à l'écoute de ces témoignages de patients et de soignants qui enrichissent jour après jour ma pratique. Je m'appelle Aurélie, infirmière depuis 2015. Je travaille à l'hôpital depuis toujours, exclusivement dans le domaine de la cardiologie. L'idée de ce podcast est née d'une envie de faire découvrir au grand public la réalité du métier, le côté agréable et humain auprès des malades et de ses collègues, et au contraire, le manque de moyens et de personnel d'autant plus évident ces derniers mois. De plus, il me paraissait aussi important d'inclure des témoignages de patients afin qu'ils nous fassent part de leur parcours de vie, des bons et des mauvais moments. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le podcast en compagnie de Rodolphe, un patient que j'ai rencontré durant son séjour en rééducation cardiaque. Son témoignage a été très enrichissant pour ma pratique soignante, car il est parfois difficile de comprendre et de se rendre compte des différents aspects, personnels, social et familial, qui rentrent en jeu pour le malade. Tout au long de l'interview, vous vous apercevrez que Rodolphe utilise des termes médicaux. Je me permettrai de faire un aparté pour vous expliquer au fur et à mesure du podcast à quoi cela correspond. Je vous souhaite une bonne écoute.
Donc, je m'appelle Rodolphe, j'ai 52 ans, célibataire mais en couple, avec deux enfants qui ont déjà 22 ans et bientôt 18 ans. Donc, je suis tombé malade en 2015 sur une crise de décompensation d'un effondrement de ma fraction d'éjection cardiaque, donc la fameuse FEVG.
FEVG, fraction d'éjection du ventricule. Elle correspond au pourcentage de sang que le ventricule gauche est capable d'éjecter à chaque battement. Elle permet de définir le type d'insuffisance cardiaque. Il en existe trois types, préservée, intermédiaire et altérée, qui se définissent selon le pourcentage de la FEVG. D'après la Fédération française de cardiologie, les trois signes principaux d'insuffisance cardiaque sont l'essoufflement, la fatigue et les œdèmes. Concernant l'essoufflement, il est lié à l'engorgement de sang dans les poumons qui déclenche un véritable essoufflement à l'effort et qui peut s'aggraver en se manifestant aussi au repos. La fatigue, quant à elle, est due au déficit d'irrigation sanguine des muscles qui ne reçoivent pas un apport normal en énergie. Et pour finir, la prise de poids importante et rapide de l'ordre de 1 kg par jour est un signe particulièrement alarmant qui traduit une poussée d'insuffisance cardiaque et qui provoque des œdèmes au niveau des membres inférieurs, puis des poumons. D'après la brochure « Suivre mon cœur », pour vivre au mieux avec cette pathologie, il est important de prendre le traitement prescrit par le cardiologue et de suivre quelques règles hygiéno-diététiques, comme limiter les apports en sel et les apports en liquide, maximum 1 litre à 1 litre et demi par jour. Attention à l'alcool et au tabac. Optez pour une pratique quotidienne d'une activité physique, environ 30 minutes modérée par jour. Quant au défibrillateur, il fait aussi partie du traitement de l'insuffisance cardiaque à un moment avancé de la maladie.
Petit point de détail, j'étais sportif, fortement sportif, beaucoup d'activités en montagne, je ne fumais pas, je ne buvais pas. La crise initiale a eu lieu, il n'y a pas eu d'avertissement avant, comme par exemple un malaise quelconque, une fatigue généralisée. C'est vraiment arrivé d'un seul coup, en l'espace d'un jour et demi. Les premiers symptômes ont eu lieu en journée. La crise a eu lieu pendant la nuit et j'ai été en fait récupéré par un de mes voisins dans les escaliers le lendemain matin. J'avais pris la décision à ce moment-là de me diriger pour aller voir un médecin à l'hôpital, mais j'ai même pas eu la force de descendre mes escaliers. Donc je me retrouve hospitalisé sur un moment, hors du temps, parce que, soyons honnêtes, je n'ai pas véritablement de souvenir des premières 48 heures, la situation était vraiment très difficile. J'étais parti très très loin. Et en fait, à partir du moment où j'étais pris en compte par les secours, pour moi, c'était un soulagement et un relâchement total. Donc je me suis laissé aller puisque j'ai des parents qui étaient dans le milieu professionnel de la médecine. Diagnostic porté donc à l'Institut d'urgence cardiaque où on m'annonce avec plein de mots savants une maladie pas vraiment identifiée mais qui correspondait donc à l'effondrement de la fraction d'éjection, c'est-à-dire la partie du cœur qui propulse le sang oxygéné vers le reste du corps qui s'est arrêté de fonctionner pour une raison encore inconnue à ce moment-là. Et qui est toujours inconnu aujourd'hui. Derrière, bien entendu, le corps humain réagit d'une certaine façon. Donc, en fait, mes organes ont arrêté de fonctionner. Et en parallèle de ça, j'ai fait un œdème et j'ai pris environ 40 kilos pendant 48 heures, on va dire. On m'a traité. J'ai eu un long séjour aux urgences. Et ensuite, j'étais transféré donc, en rééducation cardiologique. Un premier temps qui a été très long en hospitalisation complète, et puis ensuite une deuxième période où j'ai eu ce qu'on appelle de l'hôpital de jour avec de la rééducation cardiaque sportive. Résultat des courses, on m'a fait passer bien entendu énormément d'examens, on a cherché dans toutes les directions. Il se trouve que on a considéré que j'avais une maladie idiopathique, c'est-à-dire sans cause réelle ni connue. On s'est un petit peu orienté sur la cause génétique, mais sans avoir de gros indices ni même de preuves. Donc là-dessus, bien entendu, ça a changé ma vie pour plusieurs cas, puisque je suis tombé sur un médecin très jeune, on va dire, 37-38 ans, mais qui a été très très clair sur les tenants et les aboutissants de cette maladie. Qui l'a expliqué étant dégénérative, c'est-à-dire au fur et à mesure des années, elle ne s'améliorera pas. Et en émettant un diagnostic à très long terme, ce très long terme, ça pouvait être, il me l'a dit, un an, 5 ans, 10 ans, 50 ans, ou à un moment spécifique dans ma vie future, mon cœur serait dans un état tel qu'il faudrait à un moment envisager une greffe cardiaque.
D'après l'Agence de la biomédecine, après une baisse en 2018, la première depuis 8 ans, les greffes d'organes sont reparties à la hausse en 2019. Il y a eu au moins 5897 greffes en 2019, tous organes confondus, soit 92 greffes de plus qu'en 2018.
Ou autre chose, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre chose, et là on parle de cœur artificiel ou de différentes choses. Donc cette maladie, à l'époque, on parle d'il y a 6-7 ans en arrière maintenant, j'ai été obligé de changer. Alors, le premier changement, ça a été sur un aspect purement médical, puisque je me suis retrouvé du jour au lendemain à devoir prendre beaucoup de médicaments à heure fixe, enfin avec plus ou moins une heure de délai, mais presque à heure fixe. J'ai été obligé de modifier ma vie sportive et ma vie professionnelle et ma vie de tous les jours. J'habitais par exemple dans un immeuble au 4e étage sans ascenseur. Je ne pouvais plus monter mes escaliers comme autrefois. Ce que j'appelle autrefois, c'était Flash Gordon qui gambade dans les escaliers et qui monte deux par deux et qui arrivait au 4e étage en bon état, pas essoufflé. Et là, je me retrouvais à faire un étage et demi, une marche après l'autre, et en me demandant, mon Dieu, je vais mourir la prochaine marche, j'arrive plus à respirer. Deuxièmement, je faisais beaucoup de sport en montagne, du ski de rando, pas mal, du parapente. Pour moi, ça a été vraiment un arrêt brutal, très brutal. Donc, j'ai remplacé tout ça par, malheureusement, du vélo et un peu de piscine. Donc voilà, au bout d'un certain temps, je me suis donc retrouvé stabilisé en ayant perdu a priori entre 30 et 35% de ma puissance d'éjection. Dans la vie de tous les jours, ça ne se remarque pas complètement. Par contre, on est, fatigué. D'une manière un petit peu chronique. On a des essoufflements à certains moments dans des activités où avant l'accident cardiaque tout allait bien. Et là, d'un seul coup, on se retrouve fatigué, essoufflé. Avant je faisais trois fois le tour du jardin, maintenant je fais plus que deux fois. Donc ce sont des petits ajustements qui viennent fréquemment. Après le ski, j'en ai refait quelques fois. mais avec beaucoup de fatigue musculaire rapide, et puis des moments où il fallait vraiment que je me repose. Mais mis à part ça, c'était un passage du ski, entre guillemets, comme je faisais moi, c'est-à-dire hyper sportif, dans les bosses, grande vitesse, j'ai fait de la compétition à ski, à le ski de papy et de mamie qui se promène. Voilà. Le parapente, bien au début, par mesure de sécurité, j'ai totalement arrêté pendant près de 2 ans. Et au bout de la deuxième année, je me suis, réduit mon activité à des petits vols, ce qu'on appelle des ploufs dans notre langage aérien. Alors qu'avant, je faisais des vols qui pouvaient durer plusieurs heures et plusieurs dizaines, même centaines de kilomètres. Donc il y a eu un vrai changement dans mon activité personnelle. Au niveau de mon activité professionnelle, j'ai été d'abord longuement en arrêt maladie et je l'ai repris en subissant un petit peu ma maladie puisque je me suis rendu compte d'abord que je n'avais plus la même dynamique au travail. J'étais fatigué beaucoup plus vite, que ce soit au niveau intellectuel, que au niveau mémoriel et que aussi au niveau physique. Donc il y a eu véritablement un moment où je me suis rendu compte que je n'arrivais pas, j'étais plus comme avant. Voilà. Mes collègues de travail, eux, ne s'en rendaient pas compte. Par contre, moi, je le sentais. Mais je faisais face silencieusement. Voilà, c'était un peu la partie silencieuse. Après, au niveau familial, bien entendu, lorsqu'on annonce à votre compagne le jour de l'accident cardiaque que s'il passe la nuit, c'est un miracle, ça fait déjà tout drôle à l'époque. Donc j'ai passé la nuit. Voilà. Je viens d'une famille un peu spéciale qui a des origines asiatiques par mon grand-père. J'ai ma mère qui est médecin légiste, donc je fais du sport extrême, parapente, ski de rando, ski extrême. J'ai fait de la plongée sous-marine aussi quand j'étais jeune. Donc, j'ai vraiment une approche culturelle et personnelle de la mort un peu particulière. Donc, pour moi, venant déjà d'une famille dans le milieu de la médecine, ayant eu un médecin exceptionnel lors de ma crise initiale et ayant cette philosophie, pour moi, rien de bien nouveau dans ma vie de tous les jours. Bien content d'être là, j'en profite un maximum. Et je fais face comme je peux en ayant confiance envers les médecins, envers le traitement. D'ailleurs, il y avait plein de nouveautés qui arrivaient à l'époque. J'ai bénéficié de nouveaux traitements il y a quelques années de ça. Il faudra m'excuser, j'ai oublié leur nom. Mais c'était un plus. Voilà. Et puis là-dessus, au bout d'un certain temps, on oublie qu'on a cette chose-là puisqu'on s'y est adapté. On a perdu des activités qu'on a remplacées par d'autres et puis la vie continue. Et là, il y a un deuxième épisode. Donc c'était en décembre 2018. J'ai bêtement attrapé la grippe parce que j'ai oublié de me vacciner. Le vaccin était dans mon frigo. Je l'avais acheté 15 jours auparavant et j'avais appelé ma mère en disant « ça serait bien qu'on se voit ». Ça ne s'est pas fait parce que elle est suractive, moi aussi, donc on s'est raté. Je tombe malade, bêtement, une petite toux emmerdante, et là, je décompense à nouveau. Donc je m'effondre à nouveau, mon cœur s'arrête, entre guillemets. Il y a vraiment une nouveauté par rapport à la première fois, c'est que je le sens venir. Je retrouve des sensations bizarres, les mains froides et lourdes, mal colorées, comme j'ai en ce moment. Des fourmis froides qui partent des mains du poignet puis qui remontent jusqu'aux épaules, plus un essoufflement, tout me fatigue, je vais être mal poli, mais m'emmerde, je suis pas bien, voilà. Et là, d'un seul coup, je vois un œdème qui commence à gonfler au niveau de mon pied gauche, et là je réagis tout de suite, et je dis, je suis en train de faire une crise. Je repars donc immédiatement en bypassant totalement mon médecin personnel et je pars donc d'urgence où on me prend en charge et cette prise en charge immédiate se transforme en 21 jours d'hospitalisation où rebelote. Je me retrouve exactement comme au début, avec une fraction d'éjection qui s'est effondrée. Je suis retombé à inférieur à 20% en étant à 70%. Hein, donc c'est vraiment un effondrement très violent. Mais ayant été pris en charge rapidement, il n'y a pas eu ni d'affolement, ni de choses complémentaires comme une très grosse prise de poids, des œdèmes monstrueux, des douleurs dans le ventre. Tout ça n'a pas eu lieu puisque j'étais pris en charge tout de suite. Et puis là, l'équipe cardio décide de creuser, creuser, et reprend tout ce que la clinique d'origine avait fait. Donc rebelote, IRM, prise de sang, biopsie, j'en passe et des meilleurs. Et tout revient à peu près comme à l'origine, plus ou moins dans les clous, plus ou moins proche de... Bah, ça pourrait être ça, mais c'est pas ça, parce qu'il n'y a pas le bon pourcentage, donc une galère. Le truc est reposé en idiopathique. Et là, on se rend compte qu'on n'a pas fait la recherche génétique à l'époque, donc on me demande si je veux bien la faire, je réponds oui, et je ne sais pas pourquoi on ne l'a toujours pas faite. Donc là, elle est vraiment prévue dans un mois, mais à l'époque, ça ne s'est pas fait. Comme j'étais pas tombé au bas de l'échelle cette fois-ci, qu'il n'y avait pas eu d'œdème ni rien du tout, il y a une période, la dernière semaine à l'hôpital, on me gardait surtout parce qu'il y avait beaucoup d'examens à faire. Donc j'ai eu beaucoup d'examens. Et puis là, il y a eu une petite modification sur mes médicaments. On m'a gardé quelques jours pour faire les réglages au niveau des doses. Et on me libère. Et je me retrouve libéré, c'était le 24 décembre. Et à l'époque, j'étais en train d'évaluer le rachat d'une affaire avec ma famille. Et ma femme travaillait dans cette affaire. Donc j'y retourne. Je sors de l'hôpital à 16h, à 17h, je suis sur mon lieu de travail de l'époque. Et je réattaque immédiatement, on ne se pose pas de soucis. Il n'y a pas de rééducation, il n'y a rien du tout, parce que je suis, entre guillemets, en forme. Sauf que là, je ne suis plus du tout à 70%, je suis à 50%. Je ne rentre pas dans les pourcentages. Hein. Et en fait, je me retrouve dans la situation précédente, où en quelques jours, je me réadapte, à la fois aux nouveaux médicaments, et à leurs effets secondaires, et comment dire, au degré d'effort, etc., etc. Et puis là, quelques mois plus tard, on arrive à la fameuse pandémie du fameux Covid-19. Alors, c'est un virus, c'est un coronavirus, donc pour moi, c'est le Covid et pas la Covid. Je ne comprends pas pourquoi on s'embête à dire ça. Et donc, je me retrouve face à la pandémie de Covid et étant dans un commerce avec beaucoup, beaucoup de contacts clientèle, sous l'insistance de mon médecin de l'époque et de ma mère, je prends conscience du danger, puisque ma maladie est considérée comme une comorbidité importante, je prends la décision de faire valoir mon droit de retrait, ma femme aussi, et donc on se retrouve, comme beaucoup, beaucoup de Français, confiné chez nous, en étant très très content d'avoir déménagé 12 jours avant, où on était passé d'un petit studio à un véritable appartement, mais avec une énorme nouveauté, cette fois-ci on avait une très grande terrasse. Et donc on s'est considéré comme étant très chanceux. Là-dessus, rien de bien particulier, la vie continue, on arrive à la fin du confinement, je repars me promener en montagne, tout se passe bien, je fais une première petite rando un peu difficile, je me dis « youpi, je suis très content, allez, je vais faire un petit vol de parapente pour voir comment je me sens », le vol se passe bien, et là je me dis ouais, « je suis quand même un peu fatigué, je vais attendre un peu de la reprise ». Donc là, on se situe aux alentours du mois d'août 2020, et il n'y a rien de bien particulier, ni dans ma fonctionnalité cardiaque, puisque d'ailleurs à ce moment-là, je fais un contrôle, qui semble tout normal. Mon médecin, tout va bien. Au mois de septembre, j'apprends avec stupéfaction, quelques jours après avoir rencontré mon médecin généraliste, qu'il est malade du Covid, hospitalisé en réanimation. Donc je me dis, oulala, c'est grave, je suis peut-être qu'à contact. Et je décide donc de m'isoler quelques jours, comme on nous le demande de le faire, en prévenant ma famille. Il se trouve que je suis passé au travers, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vu ce qui se passait à l'époque, je, entre guillemets, m'auto-confine un petit peu plus. Donc je réduis fortement mon activité de sortie. Balade en vélo, balade à pied, aller dans les magasins, tout ça c'est terminé. Et je me retrouve vraiment dans la situation de quelqu'un qui faisait en moyenne 1h30 de vélo par jour à quelqu'un qui descend de son immeuble et qui rentre dans la supérette 20 mètres plus loin et qui re-rentre chez lui et c'est terminé. Donc je me retrouve vraiment comme à l'origine de la pandémie, enfermé chez moi, en ayant en arrière-plan dans la tête la crainte de tomber malade. Ma sœur est tombée malade, ma mère est tombée malade, ils ont eu des symptômes différents et plus ou moins longs. Et étant du milieu médical, moi je connaissais la réalité des salles de réa. J'avais des copines infirmières que je voyais, ma voisine de palier, que je voyais rentrer tous les jours en pleurs, en me disant « il y en a encore deux qui sont morts aujourd'hui », sans avoir vu leur famille, sans ci, sans quoi. Donc pas très amusant comme situation. Et puis voilà, tout entre guillemets... Tout se passe bien jusqu'à la fin du mois de janvier où le 30 janvier, je me sens en crise à nouveau. Donc là, on est au 30 janvier 2021. En fin de soirée, je me sens pas très bien. Je dis à ma copine, je vais me coucher plus tôt alors que je suis un couche-tard. Le lendemain, j'ai une journée chargée parce qu'il faut quand même sortir, faire des choses. J'ai une journée un petit peu chargée et je rentre chez moi fatigué. Voilà. Et à 3h30 du matin, je suis en crise complète, douloureuse, aiguë, avec un petit gadget que je ne sais plus où j'ai mis d'ailleurs, il faut que je la cherche. J'ai une petite montre connectée qui donne mon taux d'oxygène dans le sang, SPO2, et qui m'annonce que je suis inférieur à 80%.
Les normes de la saturation. Nous considérons une saturation normale entre 95 et 100% pour des personnes saines, 89 à 94 pour des personnes ayant des pathologies cardiaques, pulmonaires et autres.
Donc là, je me dis « Ok, j'ai compris ». J'étais dans mon lit, je sors du lit, je redeviens actif dans mon appartement, ce qui me permet de surmonter un petit peu la crise, qui n'était pas très agréable. Je prends la décision d'attendre quelques heures en me disant « ça va peut-être passer ». Je prends les médicaments de secours qu'on m'a donnés en disant « s'il se passe ça, tu les prends ». Et puis au bout d'une heure, tu réagis.
Il me paraissait important de faire un point sur l'automédication. Dans le cas de Rodolphe, ces médicaments d'urgence avaient été prescrits avec son cardiologue.
Là, je les prends. Au bout d'une heure, rien. Au bout de deux heures, ça empire. Donc, je prends la décision d'appeler le SAMU, qui vient me chercher, qui me ramène à l'hôpital. Et là, rebelote, je suis en pleine décompensation, mais vraiment beaucoup plus forte à cause de la grippe. Bien entendu, on me fait un petit frottis PCR pour le Covid, qui heureusement est négatif. Voilà, donc je re-rentre à nouveau dans le circuit des urgences cardiaques. On recommence les traitements qu'on m'a déjà fait deux fois, donc je sais parfaitement à quoi m'attendre. Au bout de quelques jours, je suis en rééducation, ça passe vite, ça va bien. Là, je suis en rééducation hôpital de jour. C'est plus rapide qu'avant. Les différentes étapes sont devenues plus courtes et plus rapides. Bon, là, il y a un changement fondamental cette fois-ci, c'est que j'étais opéré. On m'a installé un défibrillateur interne.
Le défibrillateur automatique implantable, ou plus couramment appelé défibrillateur, est un stimulateur cardiaque capable d'identifier et de traiter les arythmies ventriculaires. Il fonctionne comme moniteur cardiaque et délivre des chocs lorsqu'un seuil de fréquence cardiaque a été atteint. Le bénéfice du défibrillateur sur la mortalité a notamment été démontré en prévention secondaire après une mort subite avortée et en prévention primaire pour des patients à haut risque.
Et j'ai de la chance, il est en sous-cutané, donc c'est plus facile à installer, c'est moins embêtant au niveau de la santé. Bon, c'est un gros changement, sauf que là, en étant rentré chez moi, en fait, rien n'a changé, je m'en rends compte maintenant. La seule variable que je ne connais pas à l'instant où je vous parle, c'est à quelle puissance cardiaque je me trouve, puisque le peu de petit, on a fait une échographie rapide, mais qui était très douloureuse, donc on a arrêté à cause de la cicatrice. Je suis à 32% de FE la semaine dernière. Entre-temps, j'ai fait du sport sous contrôle médical, où je vois visiblement, moi, une nette progression, puisque en l'espace d'une semaine et demie, j'ai non seulement atteint, mais dépassé les valeurs de mon test d'effort pendant l'hospitalisation de ces jours-ci. Donc c'est assez positif pour moi, il y a encore des choses à venir, je vais continuer. Mais bon, je suis incapable de dire aujourd'hui si je suis remonté à 50, à 40 ou à 30. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, après, ben, rien n'a changé pour moi. La seule variable encore totalement inconnue, c'est la date de ma prochaine crise et la sévérité de ma prochaine crise. Tout en étant conscient que je risque un arrêt cardiaque n'importe quand, que, entre guillemets, je suis un peu mieux protégé grâce au défibrillateur, mais à côté de ça, rien de bien particulier. Mis à part, j'ai la chance d'être premièrement bien entouré, deuxièmement d'être tombé sur des équipes que je trouve vraiment fantastiques, qui une fois de plus m'ont encore mis des nouveaux médicaments, puisque a priori tous les deux ou trois ans, il y a des nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché. Donc je me retrouve encore une fois avec des nouveaux médicaments censés encore améliorer mes conditions physiques variées et diverses, parce que quand le cœur déconne, tout le reste déconne aussi. Après, eh bien, je ne sais pas ce qui va se passer avec exactitude. J'en ai une idée. J'ai pas oublié cette probabilité future d'une greffe cardiaque, avec tout ce que cela implique. Simplement, j'en suis pas là. Aujourd'hui, il y a, dans cette maladie, il y a des étapes. Bon, ben voilà, je suis à une étape où on essaye de gagner du temps, justement, pour que ce délai avant la catastrophe soit le plus long possible et se passe le mieux possible. Voilà.
Moi, j'avais une question, c'était plutôt, vous parliez voilà, de la greffe cardiaque, c'est quand même pas rien de se faire greffer. Comment vous l'envisagez ou est-ce
Alors,
que vous avez...
j'ai pas précisé que j'étais ingénieur, un geek. Je suis très passionné par tout ce qui est technologie et alors... Tout ça me donne peut-être une approche un peu différente du citoyen lambda par rapport à la greffe. D'abord, la première chose que je prends en compte, bien entendu, de mon côté, c'est que pour pouvoir bénéficier d'une greffe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure. Voilà, ça c'est le premier point. Donc, passer cet écueil psychologique important, ok, il y a la greffe. Et puis après, on se dit, mais il y a peut-être d'autres solutions. Donc effectivement, aujourd'hui, on est dans une période magique où les voitures électriques faisaient 40 km avant de rendre leur batterie. Celles qui sont vendues en France meurent au bout de 450 km. Et puis, je ne vais pas citer la marque, mais il y en a d'autres qui marchent mieux et qui font 1000 km. Donc, il existe des cœurs artificiels qui arrivent. C'est des prototypes aujourd'hui. C'est vrai que la durée de vie est pas très longue avec, mais je pense que dans quelques années, on va avoir des durées de vie qui vont être de plus en plus longues. Et je pense que dans quelques années, le barbarisme de la greffe cardiaque où il y a un mort pour un vivant, ça sera plutôt, il y aura une unité cardiaque artificielle pour un vivant. Moi, je pense qu'on va y arriver un jour. Dans combien de temps? Ça, c'est la vraie question. 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais on va y arriver. Si on avait dit à nos grands-parents... qu'on aurait des téléphones dans lesquels on peut regarder la télévision, les chaînes américaines, YouTube ou des choses comme ça, dans un bus en se déplaçant, ils nous auraient regardé avec des gros yeux en se disant « mais il est complètement fou ». Donc moi, je pense qu'à un moment ou un autre, on arrivera à remplacer le cœur par un organe artificiel. Les progrès sont énorme. La pose du défibrillateur, aujourd'hui, c'est devenu une opération complètement banale qui dure moins d'une heure, alors qu'il y a 20 ans en arrière, c'était quelque chose de très compliqué. Donc, la greffe. Bah, la greffe, d'abord, le plus tard possible, mais pas trop. Mais pas trop. J'ai 52 ans. Si je me fais greffer à 60 ans, je pense que c'est mieux qu'à 70 ans. Et se faire greffer à 70 ans, c'est mieux qu'à 80, et ainsi de suite. Donc il y a ça à prendre en compte. Bien entendu, je pense qu'il faut être greffé au bon moment, mais que l'arrivée justement de ces fameux cœurs artificiels, ça risque de changer cette donne dans les années à venir, où aujourd'hui on greffe en extrême limite médicale, et je pense que dans les années à venir, on va greffer bien avant, en disant bon bah écoutez, on a un cœur artificiel qui marche bien, vous avez encore un potentiel de 5-6 ans devant vous, on va vous opérer tout de suite. Je pense que cette option-là va arriver rapidement, c'est-à-dire d'ici une vingtaine d'années. Donc 20 ans, 10 ans, c'est peut-être encore, c'est loin et c'est proche pour moi. Voilà. Ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Je suis vraiment un cas atypique par rapport aux autres personnes qui ont peut-être ce problème psychologique. Et puis, ils ont le problème croyance, religieux. Je suis désolé, moi, la croyance et le religieux, je ne me sens pas du tout concerné. Donc, c'est un problème de moins pour moi, complètement. Comme je dis souvent pour rigoler, si Dieu existe vraiment, il s'est raté parce qu'il a inventé deux choses stupides, c'est l'administration et la religion. Donc, je prends l'option de la greffe comme une étape hyper importante, mais là aujourd'hui, pour moi, elle n'a pas encore, comment dire, d'existence. C'est encore une probabilité, c'est pas une statistique qui existe. Pour moi, c'est encore une probabilité que j'essaye, c'est peut-être un mécanisme de défense aussi, que j'essaye de voir le plus loin possible. Mais je ne me leurre pas, je suis conscient que ça arrivera un jour ou l'autre. Après, effectivement, il peut se passer plein de choses entre-temps, mais je crois qu'il faut arrêter d'avoir peur dans la vie. Les gens, ils ont peur de tout. Moi, quand je rentre dans un restaurant, vous voulez un petit café ? Non, monsieur, je veux un grand café. Vous voulez une petite glace ? Non, je veux une grande glace. Vous voulez faire une petite aventure ? Non, je veux faire une grande aventure. Donc, j'attends que du positif. Voilà, si ça se trouve, dans 6 mois, il y a un médicament qui va arriver. Dans 6 mois, on va faire une analyse génétique qui va dire « Ben voilà, ça y est, on a trouvé, c'est telle protéine qui déconne. » Puis là, vous voyez, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on fait un vaccin contre un virus. Jusqu'à présent, ça n'existait pas. L'étude du coronavirus, avec la puissance informatique, a été énormément raccourcie. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on sera capable de continuer à avoir des avancées technologiques et médicales qui rendent la vie des patients, comme moi, encore plus facile, en ayant encore moins de soucis, et puis que dans 15 ou 20 ans, « Ah, dis donc, il faudrait changer les essuie-glaces de ta voiture. Ah oui, puis demain, on pose ton cœur artificiel. » Voilà. Il faudrait qu'on arrive à cette banalité dans la gravité de greffe cardiaque d'aujourd'hui. Moi, tout ce que j'espère, c'est que l'entreprise qui s'appelle Carmina réussissent à mettre au point ce cœur artificiel. Il y a des gens qui l'ont déjà reçu, malheureusement, qui sont décédés, malheureusement, mais qui ont tellement apporté pour tous les autres. Pour moi, ça, c'est des gens, c'est des héros. Voilà. Et il faudrait que ça continue. Donc moi, je me positionne en me disant « Ok, j'en aurai besoin un jour. » Je ne me leurre absolument pas, je le sais. J'en suis clairement convaincu. Donc, en fait, comme j'en suis convaincu, je vis très bien avec, premièrement. Et deuxièmement, le jour où ça arrivera, bah pour moi, ça sera presque une routine en disant « Ah merde, ah oui, bon, bah ok, dans 15 jours ou dans un mois ou bah dès que vous l'avez. » La seule chose un peu embêtante aujourd'hui, c'est pour un vivant, il faut un mort. Et je pense que dans les années à venir, c'est le seul point négatif à mes yeux de la greffe. Je ne parle même pas des risques de rejet. Je ne parle même pas du fait qu'il va falloir encore prendre des médicaments. J'en prends déjà tous les jours. Donc, en prendre un de plus ou un de moins, c'est pareil. Après, je vais raconter quelque chose d'assez incroyable. Lors de ma toute première hospitalisation, il y avait un jeune homme d'une vingtaine d'années qui était dans un état par rapport à moi, mais moi, j'étais en pleine forme. Lui, c'était une catastrophe. Il avait son cœur qui était en train de lâcher. C'était vraiment quelque chose d'absolument terrible. Et il avait un appareil de circulation sanguine externe, une petite pompe portable avec des batteries, un truc de fou. Et ça tournait, et il était là, en train d'agoniser, à l'agonie, un jeune de 20 ans, avec qui je discutais un peu, qui était sympa, et je le perds de vue, il disparaît. Donc, vous savez, hein, quand on est malade, on pense qu'à soi. Donc je l'oublie, je pense plus à lui, et je passe à autre chose. Et un an et demi plus tard, je le croise dans une rue, c'est lui qui me reconnaît, et qui vient vers moi, et il était en pleine forme, et il avait bénéficié d'une greffe cardiaque. Et donc on a discuté, normal, c'était incroyable pour moi, et bien il avait repris une vie 100% normale. Et quand je dis normal, il faisait du sport, de la moto, du ski, il avait rechopé un travail, il avait une copine, il faisait des plans sur sa vie future, Et je trouvais ça miraculeux. Et en fait, maintenant, je trouve ça normal. Alors, bien entendu, il a fallu que quelqu'un meure pour qu'il bénéficie d'un cœur. Donc, c'est très triste pour la famille qui perd la personne. Mais ce qu'il faut qu'elle comprenne, et c'est comme ça que moi, je le prends pour moi, c'est que grâce à leur don, il n'y a pas une personne qui va survivre, mais il y en a plusieurs. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans de la multigreffe. Quand quelqu'un décède, si son cœur, son foie, ses reins ou ses poumons sont utilisables, ils sont utilisés. Donc, ce n'est pas une personne qui est sauvée, c'est plusieurs. On voit souvent des reportages à la télé. Voilà. Et puis, il y a un dernier point que je trouve très bénéfique, c'est le changement dans la loi française qui a eu lieu il y a quelques temps déjà, je crois que c'était il y a 2 ans ou 3 ans, où autrefois, il fallait spécifier qu'on voulait être un donneur d'organes. Voilà. Et ça, c'est fini. Aujourd'hui, tout le monde est donneur d'organes, sauf ceux qui ne veulent pas et qui doivent le dire. Moi, je les respecte, ces gens-là. Il n'y a aucun problème pour moi. On a vraiment changé le problème. Au mieux de regarder par le petit trou, on l'a regardé par le grand trou. Donc aujourd'hui, on se rend compte, moi je regarde, je m'y intéresse, puisque je suis concerné, je me rends compte que le temps d'attente pour un cœur, un foie ou autre chose, où autrefois on était sur une moyenne de 17 mois, aujourd'hui on est tombé sur 5, 6, 7, 8 mois, suivant la gravité. Donc on a quasiment réduit cette durée, presque de 50%, si ce n'est plus. Et ça, c'est hyper bénéfique. Après, le cœur est bien spécifique là-dedans parce que je crois que c'est le seul organe qu'on est réellement capable de remplacer par quelque chose d'artificiel. Donc moi, je m'intéresse beaucoup aux avancées sur le cœur en lui-même. Ce que je vois en tant qu'ingénieur me rassure énormément quant à ma maladie et je trouve ça fabuleux de s'y intéresser. Voilà, je pense qu'en termes de cardiologie et de concernant ma maladie, il y a eu des progrès déjà énormes qui se situent beaucoup au niveau des médicaments. Voilà. Et je pense que la prochaine étape, ça va se situer justement au niveau du cœur artificiel qui va sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies, qui va régler beaucoup de problèmes. Et puis, comme on dit, un cœur artificiel, il a un souci, on le change, on en met un autre modèle et puis on est reparti pour 10 000 km de plus. Moi, j'ai un peu l'impression là qu'à chaque fois que je tombe malade, allez, c'est reparti pour 3 semaines d'hôpital, 6 semaines de réduc, et je suis reparti pour 2-3 ans. Vous voyez, j'en suis un peu à me dire, je vais planifier ma prochaine crise et prévenir les gens qu'en 2024, je devrais être pas trop disponible parce que je vais être malade. Voilà, j'en suis un peu à ce niveau-là, je le prends beaucoup à la rigolade, parce que il faut pas se miner. Je crois aussi, ça c'est ma philosophie, hein, que si on est très positif dans sa tête, on est positif ailleurs, voilà. Vaut mieux franchement une bonne rigolade que pleurer. Voilà. Et puis après, j'ai pris 3 semaines de vacances à l'hôpital, j'en prends 6 de plus après. Il n'y a rien de bien. Oui, c'est grave, c'est une maladie grave, oui. Oui, je suis dans une situation critique. Aujourd'hui, sur un niveau de critique, je suis peut-être à 3 ou à 5. Je vais essayer de ne pas monter jusqu'à 10 parce que j'aimerais avoir encore quelques années devant moi. Mais si vous savez, je peux sortir dehors, me faire écraser par un bus, la semaine prochaine me planter en parapente ou m'étouffer ce soir en mangeant. Vous voyez, la mort, c'est un élément de notre vie qui est majeur puisqu'en fait, on commence à mourir dès qu'on sort du ventre de sa mère et peut-être même avant. Donc, il faut être capable à un moment en tant que malade, d'abord de faire confiance envers les gens qui nous soignent, ça c'est très important. Deuxièmement, de se dire qu'on peut s'y adapter. Alors bien entendu, il y a des cas qui sont extrêmes et critiques et que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui. Mais peut-être que le mois prochain ou peut-être que l'année prochaine ou dans 10 ans ou dans 50 ans, on arrivera. Et malheureusement, toujours le problème du timing, c'est la chose la plus importante, le fameux timing, on s'y fait. Et si on s'y fait pas, c'est bien triste, parce que on se mine la vie, c'est une spirale sans fin, c'est pas agréable ni pour soi, ni pour les gens qui sont autour de nous. Moi, j'ai qu'un seul conseil à donner aux gens, c'est positiver. Ma philosophie, c'est dans chaque malheur, il y a un bonheur. Si j'étais pas tombé malade, je vous aurais pas rencontré pour faire le podcast. Si j'étais pas retombé malade, j'aurais pas bénéficié des nouveaux médicaments qui sont disponibles aujourd'hui, puisqu'on change pas le traitement comme ça du jour au lendemain parce qu'on a envie de le changer. Si, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, je m'y suis fait à titre personnel. Après, il y a la question de la famille. Eh bien, plus on est transparent, mieux ça se passe. Moi, mes gamins ont été prévenus à l'époque, mon fils avait 16 ans. À J plus 3 de ma crise, quand j'ai repris conscience d'où j'étais, de ce qui m'était arrivé, que j'ai eu l'explication d'un médecin super clair, complètement transparent, incroyable, et que j'ai enfin pu comprendre ce qui m'était arrivé et ce qui m'arrivait, parce qu'il y a l'instant présent et le futur, moi, j'ai pris la décision immédiate de prévenir mes gamins, de bien leur expliquer en tête à tête, en disant voilà ce qui se passe. Bon, aujourd'hui, mon fils a 22 ans, il m'appelle, ça va, comment tu te sens? J'ai fait du vélo ce matin, je suis allé faire des courses, on se connecte et on fait un petit jeu en ligne ce soir. Voilà, on en est là aujourd'hui. Je me sens très chanceux d'avoir survécu aux premières 48 heures il y a quelques années en retard. Voilà, c'est tout ce que je peux dire en souhaitant aux autres malades que du bien. Parce que c'est pas parce qu'on a un petit incident de parcours que tout est fini. Il y a des médicaments, des solutions, des gens qui peuvent aider. Et je crois que le plus important, c'est d'être positif, de continuer au maximum de profiter de sa famille, même si c'est pas exactement comme avant. Moi, je suis arrivé à un point dans ma vie où mes enfants ont quitté le domicile familial, ils ont commencé leur vraie vie, ils sont plus là. C'est vrai que le jour où ils partent, on se dit « Oh putain, ça y est, je suis devenu vieux, c'est triste, c'est monstrueux, ils sont plus là ». Bah non. Au contraire, c'est marrant de les voir évoluer et de dire qu'il va faire les mêmes conneries que moi. Donc cette espèce de franche rigolade ne pourrait pas exister si j'ai pas du positivisme, s'il n'y a pas des médicaments, s'il n'y a pas une équipe médicale. Voilà. Il y a une chose que j'aimerais quand même savoir avec exactitude en tant qu'ingénieur, qu'est-ce qui a merdé ? Parce qu'aujourd'hui, on me donne des traitements, vous avez tel problème, on vous donne tel cachet, vous avez mal, on vous donne ci. Bon, ben, votre cœur décolle de telle façon, on va faire ça. Ok, mais la vraie question, elle n'est pas répondue dans mon cas. Ça m'énerve. Je voudrais savoir ce que j'ai. Ça, c'est un point hyper important. Et à chaque fois qu'on trouve une maladie qui pourrait expliquer le truc, ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que, oui, mais là, dans l'analyse de sang, il faudrait 30%. Moi, je ne suis pas à 30%, je suis à 17,5 ou 18, ce qui n'est pas un chiffre normal, mais qui n'est pas un chiffre qui explique la maladie non plus. Et ça, ça m'agace. Voilà, c'est le seul truc qui m'agace. C'est le truc qui me titille. J'aimerais bien qu'on ouvre le dictionnaire et qu'on me dise, tiens, regarde, c'est ça ta maladie. Ok. Hémachromatose, c'est facile, on sait ce que c'est. Non, hémachromatose, parce que tel truc est revenu positif, mais l'autre est revenu négatif. Donc, c'est pas ça, on recommence à zéro. Donc, on recommence à zéro, puis les trucs reviennent dans le même état. Bon, vous n'avez pas l'hémachromatose. Ah, merde alors. Pourtant, j'ai ça qui crève le plafond, mais j'ai pas ça. Non, c'est pas ça. Ah, il y a peut-être une nouvelle maladie qu'on lui a donné tel nom, c'est génétique, il y a tel marqueur. Non, votre marqueur, il est bon. Donc, vous n'avez pas ça non plus. Et ça, ça m'agace et ça m'agace. Il y a une chanson qui dit « ça m'énerve ». Je pense qu'on pourrait terminer là-dessus sur « ça m'énerve ». Voilà.
Merci beaucoup pour votre témoignage. C'était hyper intéressant.
J'espère que ça aidera ceux qui écouteront. Si, quand vous écouterez, oui. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. La vie est belle, il y a du soleil dehors, on va aller se promener à pied. Je vais rentrer chez moi à pied, il y a 4 km. Je vais les faire tranquillement. Ça me fera mon sport de la journée. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée !